chers amis du Libre Journal de la Transmission, bienvenue dans une nouvelle édition de nos rendez-vous que j'attends, que j'espère, que je prépare. Et c'est toujours une joie de vous retrouver et de pouvoir échanger aussi entre les émissions. Merci pour tous vos retours, vos questions. On sent là une grande famille, un grand réseau. Et je pense que l'émission d'aujourd'hui va encore venir nourrir cet attachement. Parce que j'ai la grande joie de recevoir Jamila Djelloul. Ça fait un an que nous nous sommes rencontrés et qu'on voulait vraiment se parler au micro, je dirais, pour que vous aussi, chers auditeurs, vous soyez là, vous puissiez l'entendre et puis la lire. Parce que Jamila a écrit « Musulmane, Jésus m'a libérée » aux éditions Artege. Et cela l'a conduit à donner beaucoup de témoignages, de rencontres, de conférences. Et puis, elle va nous raconter aussi comment, convertie, eh bien maintenant, elle annonce. Alors, je pense que le meilleur format pour que vous puissiez rencontrer vraiment Jamila, c'est que je lui donne la parole et qu'elle nous raconte comment elle a rencontré le Christ. Jamila, c'est à vous.
Bonjour Valérie, merci pour votre accueil.
Une grande joie.
Et bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Et ben, c'est une grande joie aussi d'être aujourd'hui avec vous pour surtout raconter ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Donc on ne peut garder ce témoignage pour nous-mêmes puisqu'il l'a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc je partage donc ce très beau chemin que j'ai rencontré, hein. Le chemin c'est Jésus lui-même. Donc je suis née en Algérie dans les années 60, donc en 65 comme je le décris. J'ai grandi dans une ville nommée Oran, à l'ouest. Donc je suis née à Tlemcen, j'ai grandi à Oran. Et je suis issue d'une famille donc musulmane, dont maman très très pratiquante. Un papa moins, mais donc issu d'une famille de 4 enfants. Donc je suis l'aînée de mon papa, mais j'ai quand même une grande sœur du premier, un grand frère du premier mariage de ma mère. Donc je considérais plus comme des parents plutôt que puisqu'on avait quand même un certain écart d'âge. Et la foi de maman, elle était pour moi très impressionnée. J'ai toujours cru en Dieu, je craignais Dieu. Et je connaissais déjà l'enfer et le paradis, hein, mon âge à 9 ans. Donc je savais qu'un jour on allait mourir et qu'il y aura un jugement. Il y aura soit pour les bons, comme on nous disait, le paradis et les méchants, l'enfer. Et j'allais à l'école coranique, donc entre l'âge de à peu près 7 et 9 ans. J'allais dans une école coranique et j'apprenais à réciter surtout le Coran, parce que c'est pas du catéchisme hein, comme ici, c'est on récite le Coran pour pouvoir prier. Et c'est dans cette école coranique et autour de moi où j'entendais que les musulmans, c'est les seuls qui iraient au paradis. Tous ceux qui sont venus avant ou ceux qui croient pas donc à Allah et à son prophète iraient en enfer. Donc en même temps, bien sûr, le mot « enfer » veut dire « méchant », donc ça va de soi. Et c'est quand on arrive en France, j'ai 9 ans quand on arrive en France, je me disais au fond de moi-même, je vais rencontrer des gens méchants, puisque sur les chrétiens, c'est des Français, les Français, c'est des chrétiens, donc forcément, ils sont méchants. Et j'ai été très surprise, nous qui avons baigné dans une grande pauvreté en Algérie, de croiser ces personnes qui venaient nous apporter des jouets, nous apporter des vêtements. Enfin voilà, c'était pour moi, je voyais le paradis déjà sur terre. Et je me disais en même temps, comment est-ce possible que ces gens-là vont aller en enfer? Donc ça me posait question. Et c'est vers l'âge de simplement 14 ans, quand on a déménagé en Bretagne, où là, on a rencontré des sœurs qui habitaient dans l'immeuble. Et ces sœurs, un jour, mon père s'est retrouvé au chômage. Et ma mère ne travaillait pas. Et c'est à ce moment-là qu'une des sœurs avait entendu dire « Mon père, j'aimerais avoir un véhicule pour aller distribuer des journaux pour faire un peu plus d'argent à la fin du mois. » Et un soir, voilà, une des sœurs est venue et elle a donné une enveloppe de billets à mon père en lui disant « Voilà, ça va vous servir à vous acheter un véhicule. » Alors pour moi, ça a été vraiment... moi, je veux dire, j'ai pris une claque ce jour-là parce que je me suis vraiment demandé à ce moment-là « Mais comment est-ce possible ?» que Allah va mettre ces personnes en enfer alors qu'elles venaient de faire un acte charitable envers nous, musulmans. On n'était d'ailleurs pas dans la même religion et on pensait qu'elles allaient aller en enfer. Enfin, tout ça. Et comment est-ce possible? Alors, Dieu est injuste ou bien ben, ce qu'on m'a appris à l'école coranique, c'est tout simplement, c'est faux. Voilà. Donc, j'étais prise entre ça, entre ce que j'ai appris, c'était faux, ou bien, si vraiment c'est la vérité, alors Allah est injuste. Et donc, j'ai grandi donc, comme étant bon, la seule fille de mon père. Il avait peur. J'étais dans un endroit où il n'y avait que des Français. Donc, il avait peur qu'un jour, je vais tomber amoureuse d'un jeune homme français, donc chrétien, forcément. Et c'était sa hantise. Donc, il me surveillait tout le temps. Et surtout, il me menaçait. Mon père était très violent. Et un jour, il me l'avait dit ouvertement, si je te vois avec un Français, je t'égorge. Donc, c'est vrai que, bon, je raconte hein, où j'étais effectivement tombée amoureuse d'un Français, mais ça n'a pas longtemps duré. Et j'ai dû le quitter parce que je savais très, très bien que ça finirait très mal. Et puis, au final, à l'âge de 17 ans, suite à eh bien, une dispute entre moi et mon frère, mon père, il m'a, en m'enfermant dans ma chambre, il a cassé la porte, la serrure avec un marteau et il est entré dans la chambre et il m'a donné un grand coup sur la tête. Et à ce moment-là, pour moi, j'ai vu la mort en face puisque ça a un petit peu paralysé tout mon corps pendant quelques secondes. Et un autre coup sur le visage et là, il m'a fracturé le nez. Et là, ça a été du sang partout, je courais dans tous les sens. Et c'est grâce à une voisine qui m'a vue en train de crier par la fenêtre. Donc, elle est venue me récupérer et m'emmener à l'hôpital où j'ai dû être placée dans un foyer puisque j'étais encore mineure. Donc, je suis restée dans ce foyer pendant à peu près presque 3 ans. Et pendant ces 3 ans, c'est vrai que moi qui étais pratiquante, hein, j'ai toujours fait la prière, j'ai toujours le ramadan, etc. Donc pour moi, Dieu avait toujours été là, toujours présent. Mais ce Dieu, bien sûr, que je ne connaissais pas, inaccessible, hein, parce que c'est vrai que dans l'islam, on sait que Dieu est un créateur, mais il ne peut être père ou autre. Hein, donc on obéit par peur du châtiment et surtout de l'enfer. Donc souvent, c'est une sorte de récompense. Donc on est toujours dans cette relation de Dieu en tant que maître qui dirige. Nous sommes les esclaves, hein, nous ne sommes pas considérés comme des enfants de Dieu. Dieu, il est le maître et nous sommes ses serviteurs, ses esclaves. Et donc, j'ai arrêté pendant ce temps où j'étais au foyer. C'est vrai que j'étais un petit peu... plutôt, j'ai essayé de vivre un peu la vie, hein, de débarrasser de toute cette emprise aussi de père qui ne me laissait pas sortir, qui était toujours derrière moi, qui me surveillait à longueur de temps. Donc, ce temps-là, ça m'a permis un petit peu de garder Dieu toujours dans mon cœur, mais je ne pratiquais plus rien. J'étais un petit peu, même c'était un peu de spiritisme. J'ai vécu deux fois deux tentatives de viol dans cet endroit. Enfin, j'ai quand même vécu pas mal, un chemin assez, assez douloureux. Et j'ai dû revenir chez moi, chez mes parents, parce que ma famille me manquait aussi. Et c'est quand je suis retournée à la maison, donc mon père s'était un peu plus calmé parce qu'il avait pris entre-temps des traitements, il avait été soigné. Donc j'ai décidé de partir, j'avais plus de métier, j'avais rien, j'ai arrêté hein, mes études, je n'arrivais plus à suivre avec tout ce qui m'était arrivé, incapable de continuer mes études, j'ai tout lâché. Et je me retrouve à Paris avec mon frère pour chercher du travail. Et au bout de quelques semaines, j'en rencontre un homme. Et là, la seule chose que je lui pose, la première question, c'est « Est-ce que tu es musulman ?» Donc, pour moi, ce qui m'importait, c'était qu'il soit musulman pour le présenter à mes parents et pour me marier avec lui. Et en même temps, surtout, pour fuir cette violence. Parce que je me disais, à Paris, c'est vrai que je ne savais pas si j'allais trouver du travail, si j'allais regagner la maison. Donc, le fait d'avoir rencontré cet homme, je me suis dit, bon, je vais me marier, je serai casée, et puis je n'aurai plus à retourner chez mes parents. Et au final, lui, ben, on s'est mariés. Hein, donc, il était musulman, effectivement. Il est parti demander la main à mes parents. Ils ont accepté. On s'est mariés. Donc, on a vécu ensemble. On a eu d'abord une première fille. Ensuite, je me suis rendu compte que lui, c'était il a fait partie des frères musulmans de l'époque en Égypte. Alors, ça ne me dérangeait pas plus parce que je me disais, il va m'apprendre beaucoup plus de choses sur l'islam, sachant que je connaissais très peu, hein, comme malheureusement beaucoup de musulmans, on pratique sans connaître le fond de l'islam. Et c'est ça le piège, c'est qu'on fait machinalement On répète des prières, on fait automatiquement, sans connaître vraiment. Mais moi, dans mon caractère, j'étais très jeune, j'étais curieuse, une nature assez curieuse, et j'aime pas suivre comme ça sans comprendre. Donc c'est ça qui a fait que, puis j'avais cette rébellion aussi, hein, que je me rebellais souvent contre mon père et ses violences. Et c'est ça qui a fait que je me posais des tas de questions. Puis un jour, j'avais demandé à mon mari, je me dis peut-être que lui, il a peut-être des réponses que moi, je n'ai pas. Et c'est sur le sort de la mère Teresa, la sœur Emmanuel, etc. À l'époque, j'entendais parler d'eux et comme des personnes qui ont tout donné pour se consacrer surtout aux pauvres et puis qu'ils soient musulmans ou pas, parce qu'ils aidaient tout le monde. Donc, contrairement à l'islam, on sait que souvent, c'est tourné que vers les musulmans. Donc, l'aumône, etc., c'est plus vers les musulmans. Là, c'était pour tout le monde. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de ces personnes? Est-ce que ces personnes vont aller aussi en enfer ou... Il m'a dit, je ne sais pas, peut-être que Dieu, Allah, va les juger autrement. Alors quand il y a on ne sait pas ou il y a un doute pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché. Donc soit c'est la vérité, c'est vrai que la vérité, c'est cache, hein, c'est ça la vérité, elle est vérité. Mais là, quand il y a des petits détours, je me méfie. Alors je me dis, il y a sûrement quelque chose. Et je n'avais pas mes réponses, donc j'ai continué toujours avec ces questionnements, avec ces doutes au fond de mon cœur, jusqu'au moment où j'avais une deuxième fille, par la suite. Et c'est après ma seconde fille, on m'avait à un moment donné fait une opération du col de l'utérus, parce que j'avais fait un frottis et puis qui détectait des cellules qui paraissaient pas très très saines, et j'ai dû donc faire une opération. Et ils m'ont enlevé une partie du col de l'utérus. Mais donc là, ça me gênait pas, je savais pas ce qui allait se passer par la suite. Et quand j'ai commencé un jour à faire des recherches, je suis allée à l'Institut, pas l'Institut du monde arabe à ce moment-là, je suis allée dans une bibliothèque d'abord. Je me suis dit, puisque mon mari n'a pas su me donner des réponses, eh bien je vais peut-être les trouver dans des écrits. Et en arrivant dans une bibliothèque, donc je vois Bible, donc dans les étages spirituels. Alors je vois Bible, et puis la Bible, je savais très très bien que c'est un livre qui, pour nous musulmans, est un livre qui est falsifié. Donc, la véritable Bible n'est plus, elle n'existe plus, on ne l'a pas. Et tout ce que nous avons sur le marché, ce sont des fausses Bibles, parce que dans la première Bible, il paraît que, ils disaient que Mohammed, ils annonçaient la venue d'un prophète qui s'appelle Mohammed. Et comme dans les Bibles que nous avons ici actuellement, il n'y a pas, donc forcément, elles ont été falsifiées. Et donc, c'est plutôt diabolique. Moi, je disais que c'était des paroles diaboliques, c'était faux, c'était pas de Dieu, enfin bref. Et ma curiosité m'a poussée à prendre la Bible et puis pour voir ce qu'il y avait de si curieux, de si blasphématoire, de tout ce qui était de l'ordre du diable. Et en fin de compte, quand je suis arrivée à la maison pour lire la Bible, je voulais simplement juste regarder. C'est par curiosité de voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Mais j'ai ouvert au milieu... Bien sûr, sans savoir qu'il y avait un ancien, un nouveau testament, je ne connaissais rien de tout ça. Et ce qui était étrange, c'est que moi qui avais l'habitude de lire, parce que je m'étais reprise, je me remise à la prière, etc. Donc, en essayant d'être encore tout ce que j'avais, le mal que j'ai fait pendant tous ces temps au foyer, le chemin que j'avais emprunté, etc., me racheter. Donc, je me suis quand même rapprochée beaucoup plus de Dieu. Et c'était étrange, c'est que quand je lisais le Coran, c'était vraiment, je le lisais comme on lit même pas un roman, parce qu'un roman, on entre dedans, on essaye de comprendre l'histoire. Le Coran, ça va dans tous les sens, ça n'a ni queue ni tête, en fait. On passe d'une sourate à l'autre, on comprend quasiment rien, on répète, et on lit machinalement, sans comprendre réellement. Et là, c'est quand j'ai commencé à lire, c'était les évangiles, puisque c'est Jésus qui parlait. Ce qui était étrange, c'est que j'ai senti comme une force qui m'aspirait en profondeur, et comme si c'était pas simplement mes yeux, c'était pas la surface que je lisais, il y avait quelque chose de plus profond. Et ça rejoignait un petit peu dans mon cœur cet être qui est inscrit en moi, que je ne connaissais pas, et c'était cohérent, en fait, et ça me parlait. Surtout, je sentais que ça me parlait personnellement. C'est comme si c'était quelqu'un qui s'adressait à moi personnellement. Et ça touchait mon cœur. Voilà, ça touchait autant le Coran, ça ne me touchait pas du tout. Je lisais, mais je répétais. Mais là, j'avais comme une soif, en fait. C'était bizarre parce que plus je lisais et plus je sentais que quelque chose s'ouvrait en moi. Et je voulais prendre plus boire, comme quelqu'un qui a soif ou qui a faim. Et je lisais, puis je disais à chaque fois que je lisais une parole, je disais, ah oui, mais moi je suis d'accord avec ça. Ça me... Oui. ça me parlait, ça me confirmait réellement la vérité. Et en même temps, ça me faisait peur parce que je me disais, c'est bizarre, parce qu'on a tout. Un musulman, il faut savoir qu'il a toujours l'appréhension du diable. Il fait partie. Le diable, il est souvent présent. Et à chaque fois qu'on commence à toucher la vérité, eh bien, il y a toujours ce côté peur qui vient en me disant non, non. Donc, si c'est trop beau, c'est que sûrement, c'est l'illusion. C'est le diable qui est en train de nous emmener vers un chemin qui n'est pas le chemin libérateur, bien évidemment. Et donc, à un moment, j'avais laissé sur le côté parce que je la cachais au fur et à mesure. Et puis là, ce jour-là, je l'avais laissé. Mon mari avait découvert, donc il était très fâché. Et surtout, il m'a dit, tu as amené la malédiction à la maison. Donc c'est vrai que j'avais cru, je me disais, lui connaît beaucoup plus les choses, c'est certain, peut-être le diable est en train d'essayer de me perdre. Donc voilà, j'ai laissé tomber, enfin voilà, je suis passée à autre chose. Et c'est vrai qu'après, avec mon mari, on avait beaucoup de problèmes, hein. C'est de plus en plus. Bien sûr, le mariage n'a pas été conclu, hein, je dirais, sur de bonnes bases. Hein. Lui, à l'époque, il n'avait pas de papier de séjour, donc il cherchait une femme aussi pour régulariser ses papiers. Moi, à ce moment-là, je voulais fuir mon père, qui était violent. Donc, le mariage en soi a été bâti, je dirais, sur quelconque intérêt des deux côtés, hein, que ça soit de mon côté ou de son côté, hein, honnêtement. Et au final, eh bien, même avec les enfants, avec l'écart qui se creusait, je commençais à prendre un peu plus de maturité. Moi, quand je l'ai rencontré, j'avais 20 ans, donc peu de temps après, donc je commençais à comprendre la vie. Et là, tous les deux, ça n'allait pas très très bien. Et à un moment, j'ai voulu avoir un troisième enfant en pensant que peut-être ça allait ressouder le couple. Et donc j'essaye, ça ne marche pas. Parce qu'on avait enlevé une partie de mon col de l'utérus à l'époque. Et donc, ça a duré quelques années. Et puis, au final, je me retrouve avec des traitements. Donc, je passe les détails de tout, hein, avec tout ce qui va avec, hein, beaucoup de souffrances. Et puis, j'arrive finalement à être tombée enceinte et avoir des jumelles. Et mais après mes jumelles, ça a été aussi très difficile. C'était la fatigue. Et je pense que ça nous a plus éloigné que rapproché finalement. Jusqu'au jour où je découvre l'infidélité de mon mari. Et puis là, c'est le chaos. Je m'en vais chez mes parents. Mes parents ne veulent pas prendre mes enfants. Donc, je ne sais pas où aller. Un jour, pendant que j'étais chez eux, j'ai passé à peu près une semaine chez eux. Finalement, je sors pour me promener à Châtelet. Là, je vois une église, j'entre, je pousse la porte. J'étais un peu perdue et je savais pas. J'ai erré comme quelqu'un qui n'avait plus sens. Je comprenais plus tout ce qui m'arrivait, toutes ces violences, toutes ces trahisons. Et au final, je rentre dans une église, je vois devant moi la Vierge Marie, donc une statue. Je me mets devant sans comprendre. Donc après, je marche dans cette église et je vois un prêtre. Et un soir, je sentais l'envie de lui parler. Et ce prêtre, il me dit une chose, en lui racontant voilà tout ce qui m'arrivait. Il m'a dit une chose, une parole, Dieu vous cherche. Et ça a été pour moi quelque chose de révolutionnaire quelque part. En même temps, ça m'a fait peur aussi parce que Dieu me cherche. Donc ça, forcément, s'il me cherche, ça veut dire que je suis perdue. Et je me disais ça, donc ça veut dire que je suis perdue. Donc en moi, c'était confus. Ah bon, moi, je pensais que je connaissais Dieu. Dieu est avec moi, donc je ne sais pas s'il me cherche, c'est qu'il y a un problème. Je ne comprenais pas. En général, c'est nous qui cherchons Dieu. Mais là, j'avais jamais entendu ça, Dieu vous cherche. Et finalement, je rentre à la maison, je décide de revenir, peut-être pour repardonner à mon mari, je ne sais pas, c'était flou en moi. Et puis finalement, je me rends compte qu'il m'avait déchiré tous mes vêtements, il en avait fait des sacs de confettis. Je me mets à pleurer, il appelle les secours parce qu'il me voyait en train de trembloter et de pleurer. Et là, je me retrouve internée dans un hôpital psychiatrique. Sans savoir pourquoi d'ailleurs. Et pendant ce temps-là, il prend mes quatre filles. Mes jumelles, elles devaient avoir peut-être à peine 3 ans. Et là, on avait un appartement en Égypte qu'on avait acheté pour les vacances. Et là, il décide, c'était l'été, il décide de prendre mes quatre filles et de s'installer en Égypte. Et il m'a laissé pendant ce temps-là, pendant, je ne sais plus, 3-4 semaines, je ne sais pas, j'avais plus de notion de temps parce que on me donnait tellement de drogue que je ne me rendais même plus compte du temps. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps j'ai passé là-bas. Il ne me l'a jamais dit d'ailleurs. Il est venu me chercher après, sous la pression de mes parents, etc. Il est venu, il m'a sorti de là. La seule chose dont je me souviens, c'est que je me retrouve en Égypte. Et là, je manque de médicaments. On avait un petit cabinet médical privé en bas de l'immeuble. Et là, je vais pour demander de renouveler mon traitement. Et je suis reçue par une femme. Et ce qui était étrange, c'est que dans un pays majoritairement musulman, ben, cette femme, c'était un médecin et elle était chrétienne. Pourquoi ? Parce qu'elle portait la croix. Et moi, à ce moment-là, quand elle a commencé à me parler, dès que je suis rentrée, j'ai vu sa croix, j'ai senti une sécurité. Je savais que cette femme-là, au fond de mon cœur, comme si une voix me disait « Ne t'inquiète pas, cette personne, elle est là pour t'aider. » Donc, je sentais, j'arrêtais pas de regarder sa croix, sans comprendre pourquoi. Et au final, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Elle m'a écoutée gentiment et surtout, elle m'a dit « Il faut arrêter tout ça. Je vais vous donner quelque chose de plus léger. » Ça c'est, ne continuez pas ça. Et effectivement, grâce à Dieu, bien sûr, qu'il l'a mis sur mon chemin et à elle, j'ai pu reprendre un traitement plus léger et m'en sortir. Et là, j'ai commencé à retrouver mes esprits et je me retrouve dans ce pays avec l'idée derrière sa tête de s'installer. Moi, pour moi, c'était hors de question. Donc, j'ai dû repartir en France parce que je ne pouvais pas rester là. Il lui avait inscrit les enfants à l'école. J'arrive en France et puis finalement, je me dis non, il faut que je reparte, il faut que j'essaye peut-être de me réconcilier. Enfin voilà, je repars en Égypte et là, c'est le chaos. Ça a été des disputes, des coups, des violences verbales, physiques. Et il finit par me répudier. Donc répudier, je ne sais pas si vous savez un petit peu comment ça se passe dans l'islam. Un homme musulman a le droit, lui, l'autorité sur sa femme et il peut, dans sa vie, la répudier 3 fois. Donc, s'il prononce 3 fois « tu es répudié », elle devient illégitime définitivement. S'il le dit une fois, il a le droit de le faire une fois, s'il revient sur sa parole, enfin, s'il regrette, hein, il peut aller revoir l'imam, faire une bénédiction et il peut reprendre sa femme. Donc. Mais si au bout de 3 fois, il faut simplement qu'elle se remarie, s'il regrette d'avoir prononcé 3 fois « tu es répudié » et il regrette, eh bien là, il faut qu'elle se remarie avec un autre homme, qu'il y ait consommation mariage, donc il faut qu'il y ait une relation physique entre elle et ce nouveau mari, que ce nouveau mari la répudie à son tour, qui lui dit « tu es répudiée », et là, elle peut retourner chez son mari, son premier mari. Donc, c'est vraiment le jeu entre la femme et l'homme, enfin, c'est très charnel, c'est très... Donc, et là, c'était pour moi, c'était définitif, 3 fois, c'était définitif, je rentre en France, je rentre avec mon aîné, et ma fille aînée, donc elle supportait pas la séparation de ses sœurs, elle pleurait tout le temps, elle appelait son père. Et au final, il décide de revenir avec mes 3 autres filles. Enfin, il revient à Paris en chez moi, dans l'idée de s'installer avec moi. Donc moi, je refuse, je prends mes filles et je le mets dehors, bien évidemment. Et sachant comme j'habite au rez-de-chaussée, eh bien il me menaçait de reprendre mes enfants en sautant par le balcon. Donc, moi, j'étais avec avec des rideaux baissés, dans le noir absolu. Et mes enfants étaient petites. Je ne pouvais pas vivre éternellement dans cette situation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit la seule solution, c'est d'aller voir une assistante sociale pour lui expliquer ma situation. J'avais déjà entamé une procédure de divorce, etc. Mais donc, on n'était pas encore divorcés. Et là, l'assistante sociale, bien évidemment, elle a vu le danger, surtout les enfants. Et les enfants ont été placés dans un foyer, donc malgré moi. Et là, pour moi, tout s'écroule parce que leur papa leur a dit « Votre mère vous a abandonné ». Donc, elles ont cru, elles étaient en âge pré-adolescence, les aînées du moins, et elles ont cru que je les avais placées pour me débarrasser d'elles. Et là, lui, il a obtenu la garde des 4. Il a fini par obtenir la garde des 4 parce qu'elles ont choisi, les grandes ont choisi leur papa. Et je me retrouve eh bien, dans un désert absolu. Et là, j'ai pensé à cette Bible que j'avais ramenée à la maison en me disant ah, peut-être qu'il avait raison, la Bible que j'ai ramenée, peut-être qu'elle m'a porté malheur. Et Allah est en train de me punir de tout ce que j'ai fait parce que j'ai douté, parce que j'ai cru à autre chose peut-être à ce moment-là. Et finalement, ça a été un désert où, à ce moment-là, je me retrouve aussi avec un ami qu'on avait en commun, un chrétien orthodoxe, qui était là, qui m'a aidé, encore une fois, un chrétien sur mon chemin. Et à ce moment-là, il m'a épaulé. Il a été là pour vraiment, je pense, je ne sais pas s'il n'était pas là à ce moment-là, comment aurait tourné ma vie, hein, donc dans ce chaos total. J'avais tout perdu. Et petit à petit, bon, on commençait à se rapprocher. Et là, lui, il est chrétien, moi, je suis musulmane, donc ça ne marche pas. Et je ne voulais pas non plus déplaire à Dieu. Hein. Donc, ce que j'avais déjà subi, c'était déjà assez. Donc, il fallait surtout qu'il se convertisse à l'islam s'il veut vivre avec moi. Et finalement, bien, au départ, il dit non. Et puis, il finit par accepter en disant, d'accord, je vais à la mosquée, je vais faire voilà, le halal, ce qu'on appelle le halal, hein, rendre licite notre union. Et on s'installe ensemble. Et puis, c'est là où je me rends compte que cet homme, il ne pratique pas plus. Et je commence à me poser des questions et sur Jésus, parce que je l'avais entendu dire Jésus, il est le fils de Dieu. Donc c'est, pour nous, c'est déjà un blasphème. Mais dire que Jésus est Dieu, c'est encore pire. Donc j'ai voulu lui montrer et me montrer à moi-même que l'islam est la vérité. Et surtout, toutes ces questions que j'avais pendant toutes ces années, trouver des réponses. Et j'ai entrepris une recherche à l'Institut du monde arabe qui m'a pris à peu près 18 mois. C'était tout le temps, tous les jours quasiment. Et cette soif de connaître la vérité. Et là, ça a été le chaos. Moi, ce Dieu que j'ai découvert dans le Coran, ce prophète qui est pour nous le modèle. Hein, vous savez, c'est pour ça que souvent, un musulman, quand on critique Dieu pour un musulman, si on dit du mal d'Allah, ça ne leur fait rien. Ils ne vont pas s'acharner plus sur vous. Pourquoi ? Parce que Dieu, Allah, c'est la traduction de Dieu en arabe. Allah, c'est Dieu pour tous. C'est le Dieu de toute l'humanité. Créateur. Mais quand on touche à Mohammed, c'est spécifiquement aux musulmans qu'on touche. Et c'est identitaire. C'est-à-dire, quand on parle de Mohammed, c'est lui qui représente l'islam. C'est pour ça qu'on s'acharne sur un chrétien quand il critique Mohammed. Pourquoi ? Parce que c'est toute une communauté qu'on attaque. Et ça peut faire très très mal. Et donc, c'est vrai qu'entendre parler, moi souvent, il y a des gens qui parlent d'Allah mal, bon, ça ne nous touche pas plus. Mais Mohammed, pourquoi ? Parce qu'en plus, il est décrit dans le Coran comme étant le meilleur modèle à suivre. Donc forcément, si on ne va pas vérifier sa vie, comment elle a été, on ne peut pas savoir comment il est. On nous a toujours dit que c'était une bonne personne, qu'il pardonnait, etc. Et qu'il était sans péché. Enfin bref, on a toujours entendu ça. Et c'est vrai qu'on garde un petit peu ce côté de Mohammed à Médine, à la Mecque, pardon, quand il était enseigné par un prêtre ébionite. Hein. L'islam vient simplement d'une hérésie de nazaréens et ébionite. C'est une compilation un petit peu. Et à l'époque, d'ailleurs, il était avec Khadija. Il se tenait bien. Hein. Il y avait des sourates qui n'appellent pas du tout au meurtre ou au combat de djihad, ni rien. Donc c'était cette période où il a vécu vraiment comme un nazaréen. Et finalement, quand j'ai découvert sa vie dans les hadiths, puisqu'il y a les hadiths authentiques, qu'il faut aller vers cela vérifier, bien quand j'ai découvert son vrai visage, et le Coran, j'ai commencé à le décrypter, pas simplement réciter comme je le faisais. J'ai commencé à le lire, prendre des notes et vérifier. À chaque fois que je voyais quelque chose qui n'allait pas, je regardais dans d'autres sourates et je mettais tout ensemble. Et beaucoup de contradictions, beaucoup d'erreurs. Et là, j'ai commencé à un moment donné à... Non, j'ai dit, je ne peux pas. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas du tout être ce Dieu qui est inscrit en mon cœur. Ce n'est pas possible. Là, j'ai découvert un autre monde. Et j'ai commencé à un moment à pleurer. Il y avait des histoires tellement absurdes que j'en riais et des histoires qui m'ont tellement donné froid au dos quand je pleurais. Et au final, à un moment, j'ai eu un combat. Mais je ne savais pas à ce moment-là c'est quoi un combat spirituel. Aujourd'hui, je le sais, je peux en parler. Mais à ce moment-là, je me disais au fond de moi-même, Jamila, il y a quand même 1,5 milliard de musulmans sur Terre. Il y a des grands théologiens, il y a des gens qui récitent le Coran tous les jours, qui le connaissent même par cœur mieux que toi, qui font leurs prières régulièrement et ils sont allés à la Mecque, etc. Et ça dure quand même 1400 ans, l'islam, ça ne dure pas d'aujourd'hui. Et toi, tu te prétends avoir découvert quelque chose que ces gens-là n'ont pas découvert. Donc c'est un peu prétentieux. Et je me suis dit, oui, moi j'ai même pas mon bac, je ne vais pas défier ces gens-là. C'est vrai, c'est tellement cohérent dans mon esprit. Je me dis encore une fois, c'est le diable qui est en train de me perdre, peut-être de me montrer des choses incohérentes pour que je quitte l'islam et j'aille un jour en enfer. Encore une fois, c'est toujours cette peur. Pourquoi ? Parce que l'islam est une religion de peur. On nous menace souvent avec la géhenne, avec le châtiment, etc., que finalement, on n'a pas... Pas, dès qu'on commence même à avoir un peu de lumière, eh bien non, il faut rester dans les ténèbres. C'est tellement inconfort, les ténèbres, on ne voit rien. Donc la lumière, elle nous dévoile déjà qui nous sommes et dévoile les autres, tout ce qu'il y a autour. Mais dans les ténèbres, on est caché, c'est très bien. Donc finalement, eh bien là, j'ai commencé, en même temps, dans mon cœur, je me disais, j'ai touché à quelque chose. Mais il y avait une voix à l'intérieur qui me disait non. Et puis en même temps, c'était confus entre la raison, la foi, le cœur. C'était un mélange. Et c'est vrai que j'ai eu des combats spirituels, je sentais une présence, parce que c'est vrai que le combat, on le voit même avec les catéchumènes, dès qu'on commence à aller vers la vérité, il y a toujours l'ennemi qui s'acharne. Donc j'ai eu des combats pendant un certain temps, j'ai dû aller à Lourdes pour mettre fin, donc grâce à la Vierge Marie, à l'eau de Lourdes que j'avais ramenée à la maison, etc., ces combats ont pris fin. Et j'ai demandé à Dieu de me faire un signe et le Seigneur m'a montré, un soir dans un songe, j'étais dans un lieu, dans un lieu très spacieux, puis il y avait deux grandes colonnes marron rougeâtre foncées en bois. Et dans ce lieu, je demande « Nous sommes où ici ?» à une personne, elle me dit « Nous sommes à la basilique de Bologne ». Je ne savais pas ce que c'est une basilique, encore moins Bologne. Et là, le lendemain, je demande donc à mon mari, je lui dis « c'est quoi Bologne ?» Il me dit « ça doit être en Italie parce qu'on parle de spaghetti bolognaise ». Alors oui, donc c'est vrai, c'était juste. Et en même temps, basilique, c'est quoi ? Moi, je connaissais église. Et je suis allée faire une recherche sur Internet, encore une fois, curieusement. Donc je cherche, hein, je ne veux pas rester à ce détail. Et c'était l'année 2002. Je vais donc, je cherche, je trouve effectivement, il y a une basilique qui s'appelle San Petrino à Bologne, en Italie, et à l'intérieur, des grandes colonnes marron foncé, rougeâtre. Et je me dis, mais pourquoi Dieu veut me montrer ce rêve, que ça ne s'arrête pas à ça, il y a sûrement quelque chose d'autre. Et je clique sur un lien, et une page s'ouvre, et cette page disait dernièrement, cette basilique a fait l'objet d'une menace terroriste par Al-Qaïda, parce qu'à l'intérieur se trouve une fresque qui représente le prophète Mohammed en enfer. Et là, pour moi, ça a été une révélation. Je savais que Dieu voulait dire, il faut stopper. L'islam, c'est pas le chemin. Je l'ai compris, hein, parce que Dieu, en général, quand il nous montre quelque chose, il parle à notre cœur aussi. Il nous laisse pas comme ça, et c'est une réponse concrète. Je le savais très très bien. Et là, ça a été le moment où j'ai coupé, j'ai compris le message, c'était clair, et j'ai coupé avec l'islam. Ça a été mais tout de suite, couper avec l'islam ne veut pas dire aller vers les chrétiens. Il y avait le problème des chrétiens, c'est Jésus, fils de Dieu. Non, parce que pour nous, Jésus est un prophète, il ne peut pas être le fils d'un Dieu inaccessible, un Dieu créateur, c'est pas possible. Jésus, il est sur terre, il mange, comment Dieu dirige le monde. Après, on dit Dieu, en plus, compris comme c'est compris dans l'islam, dans le Coran, il est dit que fils de Dieu veut dire que nous croyons en tant que chrétiens que Allah a une relation avec Marie pour avoir Jésus. C'est ça le fils de Dieu. C'est vraiment le côté charnel. Et puis dire que Dieu, Jésus est Dieu, c'est encore pire parce que c'est pas possible. Dieu ne peut pas être un humain. Donc ça, c'est ça qui faisait la Trinité encore moins, puisque la Trinité dans le Coran, c'est Allah, Marie et Jésus, ce qui est complètement à l'inverse de ce que croient les chrétiens. On croit en un Dieu unique, mais l'islam ne le voit pas de cet angle-là. Donc je ne me suis pas tout de suite tournée vers le christianisme. J'ai passé une période un peu, on va dire, loin avec un Dieu. C'est tout. Je croyais en Dieu, mais sans savoir qui il était. Jusqu'au jour où, au bout de 5 ans, après 5 ans de vie avec cet homme, je ne pouvais toujours pas avoir d'enfant. Hein. Je savais que je ne pouvais pas sans passer par des traitements. Un jour, je fais un songe aussi, et là, je me vois dans une cathédrale avec des vitraux. Et dans cette cathédrale, je regarde les vitraux, et une dame vient vers moi, et elle me dit comment on prie, et là, je lui fais le signe de croix en disant « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et je me réveille le matin, donc le rêve, vraiment, je l'avais en mémoire, et je me dis « mais qu'est-ce qu'il a comme ça ? Qu'est-ce que ça veut dire, le rêve ?» J'essayais de comprendre le sens. Et quelques jours après, on se rend à Cologne, en Allemagne. Et là, je vois une grande cathédrale et quelque chose me dit d'entrer. Je suis poussée à entrer. J'entre dans cette cathédrale et là, je vois des vitraux de toutes les couleurs. Et je me dis, oh là là, c'est exactement ce que j'ai vu dans mon rêve. Alors, c'est peut-être un rêve prémonitoire. S'il y a une personne qui vient me demander comment on prie, je ferai exactement le signe de croix comme je l'ai fait. Voilà, ça rendrait le rêve tel qu'il est. Et au final, je ne vois pas de personne autour de moi et je continue ma petite visite, je marche. Une très très grande cathédrale immense, je marche, et je vois une porte sur ma droite, où c'était marqué, sur la porte c'était marqué « silence prière » en français, alors qu'on était en Allemagne, ce qui était étrange, j'ai jamais compris le mystère hein, jusqu'à aujourd'hui, en français, donc c'était pour que je comprenne, et finalement je pousse ma curiosité, je me dis il y a peut-être des gens qui prient là-dedans, je sais pas, « silence prière », sûrement il y a des personnes qui sont en silence en prière, je savais pas que c'était le Saint-Sacrement, je l'ai su qu'il y a pas très longtemps, que c'était, il y avait l'adoration. Mais moi, je connaissais ni adoration ni rien. Et je pousse donc cette porte, j'entre et je m'assois. Il y avait quasiment personne. Je m'assois et là, il y a une parole qui vient dans mon esprit de je ne sais d'où. Je ne l'avais pas du tout apprise par cœur. Où Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accorde. Et à ce moment-là, j'ai dit, ben c'est vrai, je n'ai jamais prié Jésus. J'ai dit, Allah, Dieu, mais jamais Jésus. Eh bien, je lui dis, écoute, Jésus, tu as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accorde. Eh bien, je te demande de me donner un enfant. Et si tu me l'accordes, je te suis. Merci. Et dès l'instant où j'ai dit merci, là, je sens une joie. Je sens une joie m'envahir, mais je ne sais pas, comme quelqu'un qui vient de, qu'on lui renverse quelque chose dessus, et une paix intérieure. Et la conviction que cette prière allait être exaucée. Au fond de moi-même, je le savais. Donc je me lève de là avec un grand sourire, une paix, une joie, indescriptible, hein, c'est même pas une joie de satisfaction, c'est autre chose. Et je sors et j'attends le mois donc, pour aller acheter un test à la pharmacie. Et sans aucun doute, j'allais à la pharmacie du tout, mais je n'avais même pas une idée qui me frôle l'esprit comme quoi ça a l'air, c'est peut-être, oh ben, il ne se passera rien, oh là là, Non, du tout, c'est comme une évidence. Et donc, je ramène le test à la maison, je fais le test, et c'était positif, effectivement. Donc, mon cœur ne m'avait pas trahi, et réellement, le Seigneur avait entendu et exaucé ma prière. Et là, je commence à pleurer, je me mets à genoux, je pleure. Et à 4 mois de grossesse, Jésus est venu me réveiller, me visiter lui-même en rêve pour confirmer. Donc, je vois le Seigneur dans un lieu. En marbre, le sol était en marbre, carrelage comme du marbre, au sol, c'était beige, très clair, et il était là, habillé, avec une tunique toute simple, elle n'était pas plus éclatante, hein. C'était vraiment une tunique blanche simple, il avait les cheveux mi-longs, comme on le voit, le visage qui se rapproche le plus, c'est celui de la Divine Miséricorde, parce que quand j'avais vu le tableau après, tout de suite j'ai dit c'est lui que j'ai vu dans mon songe, et avec tout se passait dans son regard, en fait. Il n'a pas parlé, mais il n'a pas besoin de parler, Jésus, en fait. Il vous regarde, c'est tout. Et le regard en dit long. En fait, c'est quand il m'a regardé, dans les yeux, je voyais tout. Enfin, tout. Vous savez, quand on vous regarde avec sans jugement, sans rien, mais un amour qui sort simplement avec un regard. Il n'a pas dit « je t'aime », mais je le savais. Dans son regard, tout sortait, toute cette bienveillance, toute cette compassion, toute cette miséricorde infiniment, je ne sais pas comment l'expliquer. Et une chose, rien que ça, il m'a dit une seule phrase, je me souviens, c'était une parole. Il m'a dit, je suis content que tu sois enceinte. En fait, il ne m'a pas fait un enseignement, il m'a pas dit, voilà, tu vois, je suis Dieu, tu vois, tu peux croire, je suis qui. Non, du tout, je suis content. Il était content pour moi et je pense que le Seigneur, parfois, on ne se rend pas compte qu'il est simple, hein, on essaye de compliquer Dieu. Dieu n'est pas compliqué, c'est nous qui sommes compliqués. Dieu, l'amour est simple, l'amour il est vrai, l'amour il ne cherche pas, comme on dit, à rentrer dans des grandes discussions en fait. Et pour lui, il était content. C'est ça qui l'importait, c'est que je suis contente et je suis heureuse. Et j'ai voulu embrasser sa main à ce moment-là et d'une manière très délicate, il écarte sa main comme si pour me dire non, je n'ai pas besoin de ça. Je ne suis pas là simple qu'on me fasse le baise-main ou autre. Ce n'est pas ça que j'attends. Je l'ai fait, je n'attends rien finalement. J'attends le retour de ton amour et c'est tout. Et que tu saches surtout que je t'aime, c'est tout. Et là, à ce moment-là, il s'assoit sur une des marches. Moi, il y avait 2 marches. Il était comme dans une église. Vous savez, je ne savais pas à l'époque comment c'était constitué une église. Il y a le chœur, bien sûr, aujourd'hui, maintenant, je peux le dire. Il y a le chœur, il y a l'autel. Il n'y avait pas l'autel, en fait. Il était à la place de l'autel. C'est lui qui était debout à la place de l'autel. Il n'y avait pas d'autel. Et à un moment, il y avait 2 marches. Il se met sur la première des marches. Il s'assoit sur la première des marches. Moi, je me mets à genoux sur la deuxième, juste en face de lui. Et je l'enlace avec mes 2 mains, mes bras, autour de sa taille. Et je mets mon oreille sur son cœur, en fait. Comme ça, comme quelqu'un qui se blottit avec son père ou sa maman. Et là, je sens l'amour, mais infiniment grand, je ne sais pas, je ne peux pas le décrire, un bien-être. J'étais dans un état que je ne pourrais jamais expliquer verbalement, il n'y a pas de mots. Et j'étais tellement bien, et là, j'ai commencé à fondre en larmes. J'ai pleuré. En fait, ce n'était même pas des larmes de joie, ce n'était pas des larmes de tristesse. C'était, je ne sais pas, je ne pourrais pas expliquer, parce que c'est des choses, c'est comme quand on vient de découvrir une personne, peut-être la personne la plus chère au monde. Comme quelqu'un peut-être qui était orphelin. Je dirais peut-être parce que je n'ai pas connu le fait d'être orpheline pour peut-être en parler. Mais comme quelqu'un qui n'a jamais connu, par exemple, ses parents, et puis on lui dit, voilà, ton papa ou ta maman. Et là, j'ai commencé à fondre en larmes, je pleurais. Et puis, à un moment, je savais que j'allais me réveiller. Et je continue à serrer très, très fort, pour justement, parce que j'étais tellement bien que je ne voulais pas me réveiller. Je voulais rester dans cet état, dans le cœur de Jésus, mais vraiment. Et je me suis réveillée, je me suis retrouvée avec des vraies larmes, hein, beaucoup d'émotions. Et par la suite, donc, j'avais du mal, et comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'émotions. À chaque fois que j'éprouve toujours, j'ai l'impression que je revis à chaque fois ce moment. C'était tellement fort que je l'ai vécu réellement. Et donc, ma grossesse se passe bien. Ma fille est née. Après, comme on m'avait dit, à 3 poussées, c'est l'infirmière qui me l'a dit, 3 poussées, elle était là, sans avoir subi ni... Je devais faire la péridurale, elle est née sans péridurale, j'ai pas eu le temps, elle est née... Et le Seigneur a complètement réparé mon utérus parce qu'il m'a donné 2 enfants, 2 garçons après, donc ça veut dire sans traitement, c'est 1 an et demi après mon fils est venu, et 3 ans après, mon autre enfant est né, un garçon aussi. Donc pour dire que le Seigneur, quand il donne en centuple, hein. Moi je lui ai demandé 1 enfant, il m'en a donné 3, et peut-être j'aurais continué, j'aurais eu peut-être d'autres, mais comme l'âge passait, donc j'avais quand même 44 ans quand j'ai eu mon dernier. Et après ma fille, j'ai entrepris comme prévu un catéchuménat qui a duré pendant 4 ans. Et pendant ce temps, j'ai compris qui était Dieu. Je me suis rapprochée de ce Dieu qui est Père et non pas simplement un dictateur ou un maître qui dicte des lois et qui punit à chaque fois qu'on n'obéit pas. J'ai compris ce qu'est le don de l'amour gratuit. Ce salut que Jésus a donné, pourquoi moi qui ne savais pas c'était quoi la croix, c'est vrai, comme une personne me l'avait dit, une musulmane un jour, elle m'a dit, quand je voyais la croix, pour moi c'est un signe religieux pour les chrétiens, tout comme nous on porte la main de Fatma ou les juifs l'étoile de David. Je ne savais pas que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Elle me dit, mais pourquoi les chrétiens ne le disent pas? Elle le disait en pleurant. Et c'est vrai, là j'ai compris c'est quoi l'amour, vraiment c'est celui qui donne, celui qui m'aime au-delà de tout.
Jamila Djelloul, je voulais vraiment vous laisser dérouler parce qu'on vous suit. Comme on vous suit dans votre livre « Musulmane, Jésus m'a libérée » chez Arthège. Chers amis, je vous propose vraiment de vous munir de ce livre. Vous retrouverez tout le témoignage de Jamila avec ses mots si simples et ça coule et on la suit. Beaucoup d'épisodes, elle est passée légèrement sur beaucoup d'épisodes. Et puis surtout, j'arrête son témoignage là pour que vous puissiez découvrir ensuite, vous l'avez compris, il y a eu cette conversion. Il y a eu ce baptême, Jamila Marie, et l'aventure n'était pas finie, elle se poursuit dans l'amour, elle se poursuit dans le témoignage. C'est une grande partie de votre vie aujourd'hui, c'est de témoigner. Dans les minutes qui nous restent, je voudrais que les auditeurs de Radio Courtoisie puissent peut-être vous entendre sur certains points auxquels j'ai pensé à la lecture de votre livre. Pourquoi, Jamila, pensez-vous que le Christ, Dieu, parle souvent en songe aux musulmans? C'est souvent le cas dans les conversions.
Alors moi, je parlerai plutôt par rapport à mon expérience personnelle. Après, c'est peut-être, ça c'est propre à mon expérience. Alors après, pour le reste, je ne saurais pas comment il procède avec les autres, parce que le Seigneur nous voit chacun unique. Il sait comment passer, hein, tout comme nous, quand nos enfants, on sait s'adresser de telle manière ou de telle manière à ceux qui sont sensibles plus par les paroles, par des gestes, par des dessins, par je ne sais quoi. Donc, je pense que le Seigneur, il comprend chacun de nous. Et moi, en tout cas, je pense qu'il est passé par le songe, parce que c'était le seul moyen. Il voyait peut-être surtout ma sincérité. Moi, je n'avais pas envie de quitter Dieu parce que je le craignais. Je ne voulais pas, je voulais aller un jour, je ne voulais pas aller en enfer. Donc, il savait très, très bien que c'était le seul moyen, quand il m'a fait peut-être voir ce songe avec la cathédrale, etc., enfin, la basilique, pour couper. Je n'avais pas d'autre moyen parce qu'il y avait toujours le combat entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Je ne savais pas, j'étais perdue. Et le musulman, il est sincère. Le musulman, quand il pratique, il faut dire que c'est vrai que souvent, il est la victime de cette doctrine. Nous sommes pris au piège. Nous vivons dans un mensonge, mais le mensonge, c'est pas eux qui l'ont inventé. C'est le premier qui a inventé cette religion. C'est lui le problème. Le musulman, il suit simplement à la lettre ce qu'on lui a dicté, tout
Donc
simplement.
Donc Dieu se montre, en fait.
Bien
Dieu
sûr.
Montre.
Avec la sincérité du cœur, je pense que moi, il s'est montré. C'est pas parce que je suis, je vaux mieux ou je... Non, je pense simplement que le message, c'était comme ça qu'il devait passer. Et ça m'a aidé. Parce que si je n'avais pas eu ce songe, eh bien, peut-être que je serais perdue, réellement. Mmh. J'aurais eu toujours le doute, même si on vient me dire non, Jésus, c'est pas le fils de Dieu parce que c'est comme ça. C'est difficile. Il faut croire que le musulman, il est pris au piège. Entre la religion, c'est une identité. Il y a tout, la culture, il y a la umma, la famille, il y a tout, la tradition. En fait, c'est pas simplement une foi entre nous et Dieu. Et la peur aussi, parce que le châtiment dans l'islam, il est dur.
Et voilà. Et justement, au sujet de la peur, parce qu'aujourd'hui, vous passez le plus clair de votre vie à témoigner, vous le faites presque en porte-à-porte, vous rencontrez les gens sur les marchés, vous allez vous dire, etc. J'ai lu ce matin cet extrait de l'évangile de Saint-Luc, vous serez comme des brebis au milieu des loups. Est-ce que vous avez peur parfois, Jamila?
Alors honnêtement, peur quand je suis à l'évangélisation, non. Du tout. Pourquoi ? C'est pas moi. C'est l'Esprit Saint qui agit en moi. Moi, je suis très très peureuse. Je vois une souris qui passe devant moi. Je vais sauter en l'air. Non, c'est l'amour parfait bannit la peur. J'aime beaucoup cette parole parce que je pense que je vois. Vous savez, une maman. Moi, je vois ça comme ça. C'est l'image qui me vient. Une maman qui voit son enfant qui tombe dans l'eau, même si elle sait pas nager. Même si l'eau est glacée, elle va sauter.
Oui.
La peur n'est plus là parce qu'il y a un sauvetage, il y a une vie qui se perd. Et je pense que quand on est sur le terrain, eh bien, c'est les âmes. Le Seigneur, il voit qu'à travers nous, il va sauver ses âmes. Et les âmes valent beaucoup plus. Hein. Et puis d'ailleurs, il faut se dire que... Et c'est vraiment trompeur. La peur, en fait, vient du malin. Quand on a peur, on est paralysé, on ne peut rien faire. On perd toutes nos facultés. Et le diable sait, quand il nous fait peur, l'œuvre de Dieu ne peut pas agir. C'est par le courage. Nous avons reçu l'Esprit Saint, c'est l'esprit de courage, ce n'est pas l'esprit de peur. Dieu n'a jamais... Et les premiers témoins qui sont morts martyrs, s'ils avaient eu peur, on ne serait pas chrétiens aujourd'hui. Et je pense que au-delà de la mort, qu'est-ce qu'on a à craindre? C'est la mort spirituelle qui doit faire peur, c'est pas la mort physique. De toute façon, la mort physique, on mourra tous d'une manière ou d'une autre. Et je dirais que non, la peur... Et un chrétien, il doit savoir que c'est une couronne d'épines qu'il doit porter et non pas une couronne de gloire. On n'est pas là pour... On est au service. Et le plus grand, c'est le serviteur. Quand on est au service, c'est la plus grande joie. On reçoit beaucoup plus que ce que nous pouvons donner. Vraiment, il faut l'expérimenter.
Vous avez parlé de Lourdes dans votre témoignage, et là vous revenez de Lourdes, vous avez passé deux jours très intenses.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, puis pour la fin je vous poserai une ultime question, mais malheureusement le temps est passé très vite. Alors Lourdes, quelle était l'ambiance là-bas?
Alors j'avais deux témoignages à donner à Lourdes, donc auprès de... Alors ce qui était drôle, c'est que... samedi après-midi, donc à l'église Sainte-Bernadette, donc faire un témoignage. En amont, je pensais, donc on m'avait parlé d'aumônerie, donc je savais pas, je savais que j'allais rencontrer des jeunes de l'aumônerie qui seraient là-bas, voilà, d'un groupe hein, de pèlerinage. Et donc j'arrive, j'avais fait d'abord une courte aussi
interview
sur Radio Présence.
Ouais.
Et j'étais quasiment presque, j'avais 5 minutes entre la radio et l'église. Donc je cours et puis finalement j'arrive là-bas, j'arrive et puis je vois beaucoup de monde. Et des personnes de, voilà, beaucoup plus de personnes âgées, enfin d'un certain âge que de jeunes. Et je me dis, je crois que je me suis trompée d'endroit, parce qu'il y avait énormément de monde, j'avais au moins 500 ou 600 personnes, je ne sais pas. Et moi qui ai l'habitude de témoigner devant 30, 40 personnes, donc là, je vois tout ce monde-là, je panique. Et elle me dit, non, c'est bien ici. Et là, finalement, j'arrive, je suis très émue, je ne sais pas quoi dire, et je leur dis, excusez-moi, je prends le micro, je leur dis bonjour. On m'a dit que c'était l'aumônerie, et tout le monde s'est mis à rigoler, parce que la plupart qui étaient là, ce n'est pas des gens de l'aumônerie, c'était des personnes, souvent des gens malades, etc., sur leur fauteuil et tout. Donc, et après, donc, on a ramené avec nous, donc ça a été une belle après-midi, vraiment très... Le Seigneur, vraiment, a béni cette journée. Et finalement, on était partis, pour dire que nous sommes allés avec trois personnes. Une néophyte de l'année dernière, une musulmane qui a reçu son baptême l'année dernière. Le deuxième, c'est un néophyte qui a reçu son baptême. Alors, ce sont nos filleuls, tous les deux, qui a reçu son baptême il y a une semaine. Donc, ça fait le samedi de Pâques. Et une catéchumène qui se prépare pour le baptême. Donc, ils ont découvert Lourdes pour une première fois. Donc, voilà. Donc, c'était riche d'expériences, riche de joie. Et vraiment, ils ont pu faire la piscine. Ils ont les deux, celle qui est catéchumène et celle qui est néophyte de l'année dernière, ont pu aller au bain. Donc, on a passé une très, très belle... très beau.
Merci infiniment, Jamila Djelloul. C'est passé très vite. Vous ne pouvez pas tout raconter dans cette petite rencontre que nous vous proposons, qui était quand même très riche. Merci pour toutes les pistes que vous ouvrez. Vous les ouvrez dans tous les cœurs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient peut-être insensibles encore. Mmh. Je pense que vous mettez toute votre passion. On sent chez vous une grande curiosité. C'est ce feu finalement qui vous a conduite jusqu'au Christ, qui vous a libéré. Merci de ce témoignage.
Merci à vous.
Et ce micro de Radio Courtoisie vous sera toujours ouvert.
Merci.
Merci infiniment de votre confiance, Jamila Djelloul. Voilà.
Donc, je voulais juste ajouter une petite parole pour finir. Alors, je dirais aujourd'hui, ce que j'avais pensé être une malédiction à ce moment, cette Bible, eh bien, c'était une bénédiction. Mmh. Et c'est vrai que le Seigneur, on ne voit pas comment il œuvre. Et c'est dans le désert, vraiment, qu'on peut le rencontrer. Quand on est vraiment dépouillé, que notre cri, comme il dit, le pauvre cri, Dieu l'entend. Parfois, c'est les événements de la vie nous rendent sourds un peu à l'appel, à la voix de Dieu. Mais souvent, Dieu, on l'entend vraiment quand nous sommes démunis de tout, quand nous sommes dans un détachement absolu. C'est là que le Seigneur, il nous dit, voilà, je suis là, j'ai toujours été là, mais sauf que nous étions insensibles à sa voix. Donc, ouvrons le cœur, nos cœurs spirituels, pour pouvoir entendre la voix de Dieu qui nous appelle chaque jour.
Merci beaucoup, Jamila Djelloul.
Merci à vous.
Merci. Bon retour.
Merci beaucoup.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75016, Paris.
Chers amis de Radio Courtoisie, vous êtes au cœur de notre émission Libre Journal de la Transmission. Ce beau témoignage de Jamila Djelloul, vous pouvez le retrouver dans son livre « Musulmane, Jésus m'a libéré » chez Arthej. Et avant d'accueillir mon deuxième invité dans un autre domaine, je voulais faire une annonce qui concerne un concours d'écriture. Vous savez, je suis très attachée à la transmission de l'amour de la lecture. Et cela passe souvent par l'amour et la découverte du plaisir de l'écriture. Tout cela est très lié. Et nous pouvons rendre hommage à L'Homme Nouveau qui propose pour la 8e édition un concours autour d'une nouvelle énigme pour le père Brown. Alors, je ne sais pas, chers amis, si vous connaissez les livres de Chesterton et les enquêtes du père Brown, qui sont merveilleusement subtiles, pleines d'humour et merveilleuses à lire en anglais. Il y a d'ailleurs des éditions anglais-français qui sont extrêmement intéressantes. Si vous ne le connaissez pas bien, rendez-vous sur le site de L'Homme Nouveau, d'ailleurs, où vous aurez beaucoup d'indications sur l'article « Father Brown, un étonnant petit prêtre détective ». Mais alors, de quoi s'agit-il avec ce concours ? Eh bien, à la manière de Chesterton, L'Homme Nouveau vous propose de déployer votre talent, peut-être un talent que le monde ne connaît pas encore. Et donc, ce concours est ouvert à des personnes qui n'ont pas encore été publiées, jamais publiées. Et L'Homme Nouveau ouvre ses colonnes à ses jeunes talents, organise ce concours autour du thème « Une nouvelle énigme pour le père Brown, serez-vous son auteur ?» Les lauréats seront publiés dans le numéro d'été, recevront en cadeau abonnement et livre des éditions de L'Homme Nouveau. Chaque participant bénéficiera d'un mois d'abonnement gratuit. Alors jusqu'à quand ? Eh bien, votre texte doit être rendu avant le 10 juin 2025, vous l'envoyez à redaction@hommenouveau.fr. Tout ce que je vous dis là, vous le retrouvez sur la page du site hommenouveau.fr concours jeunes talents 2025. Ce lien figurera sur la page de l'émission. Découvrez cet auteur, découvrez votre propre talent peut-être. Et puis, restons avec l'homme nouveau, puisque j'accueille dans cette deuxième partie Joël Hautebert. Bonjour Joël.
Bonjour.
Je suis ravie de vous entendre et de pouvoir aller non pas plus loin que votre livre que je présente à nos auditeurs, mais peut-être en extraire quelques points saillants. Je pense qu'à notre époque, et c'est le constat je suppose que vous avez fait avec les éditions de L'Homme Nouveau, nous avons vraiment besoin de nous former. Et nous croyons parfois qu'en regardant une petite vidéo de 3 minutes 50, on va pouvoir se former sur un point. Mais on s'est bien tous rendu compte qu'on a besoin de passer par l'écrit, qu'on a besoin de compulser, de revenir. Et bravo, bravo de nous donner cet outil. Je donne le titre de votre opus, Cohérence de la déconstruction. Mais il s'agit de tout un ensemble que vous allez nous présenter. Vous souhaitez pouvoir donner des clés pour comprendre notre monde. Vous êtes Joël Hautebert, le directeur de cette collection. Pouvez-vous nous la présenter, puis nous y reviendrons.
Alors, la collection s'appelle Critères et elle a été lancée le mois dernier avec la publication des trois premiers ouvrages, celui que vous mentionnez, Cohérence de la déconstruction, également un ouvrage de Jean-Marie Vernier intitulé Nietzsche ou l'exultation de la transgression, et un livre de Cyril Dounod, qui comme moi est professeur de droit, et qui s'intitule L'Église hors la loi. Trois ouvrages différents, mais qui sont en réalité très, très connexes, dans la mesure où nous assistons à une déconstruction dont les origines sont lointaines. Nietzsche fait partie des déconstructeurs, et l'aboutissement, c'est l'effacement de l'Église, au même titre que nous assistons aussi à un effacement de l'homme au bout de toute une chaîne d'idéologies qui se sont succédées, qui ont agi parfois simultanément aussi, et qui aboutissent, en ayant au départ rejeté Dieu, qui aboutissent à l'effacement de l'homme. Donc il y a évidemment un lien entre ces trois ouvrages, et il y aura un lien entre tous les ouvrages que nous publierons, l'objectif étant de publier à peu près 10 à 12 ouvrages par an, portant sur avant tout le politique. Vous avez parlé de la formation, il sera question du bien commun, il sera question de l'autorité, de l'État, des constitutions, des corps intermédiaires. Il sera question, dans la lignée du travail sur Nietzsche, des idéologies et des philosophies qui sont responsables de ce phénomène de déconstruction. Donc il sera question du libéralisme, du marxisme, du fascisme, du national-socialisme et des formes contemporaines, principalement du marxisme et du libéralisme. Et puis, nous aborderons aussi des sujets d'actualité ou encore des portraits, parce qu'on ne se contente pas, évidemment, d'apporter un regard critique sur un certain nombre de pensées, mais aussi nous mettrons en lumière ou en avant un certain nombre de personnages qui ont réalisé de belles choses ou qui ont écrit de belles choses.
Ainsi, toute personne qui ressent ce besoin de se former pour agir trouvera des clés dans toute cette collection qui pourra être véritablement utilisée comme un outil. Vous voyez, c'est un livre qui n'est pas écrasant. Vous avez, en tant que professeur de droit, tout à fait l'habitude de concentrer en choisissant les mots. Nous reviendrons à cette question des mots. Et donc, ce sont des outils. Vous avez intitulé celui que vous nous présentez aujourd'hui, Joël Hautebert, « Cohérence de la déconstruction ». Par ce titre, que voulez-vous dire ? Voulez-vous dire qu'il y a une logique, qu'il y a un plan ? Expliquez-nous. « Cohérence de la déconstruction ».
Alors, vous avez employé les mots « cohérence » et « plan ». Le mot « cohérence » apparaît dans le titre et pas le mot « plan ». Et effectivement, l'idée d'une cohérence, d'une logique, d'un mouvement, d'un processus, ne signifie pas forcément que cela a été planifié, en tout cas par les hommes, hein, bien sûr. Peut-être que quelqu'un planifie tout ça, le prince de ce monde. Mais enfin, en tout cas, nous pouvons simplement observer à vue humaine une cohérence. C'est-à-dire que il y a un enchaînement de causes et d'effets, un principe initial qui est celui du désir d'émancipation, face à un ordre des choses qui s'impose aux individus, et ce désir d'émancipation a généré l'individualisme, qui lui-même a généré l'étatisme, mais cette émancipation a aussi donné naissance à l'absolutisation de la science, l'homme croyant parvenir à la maîtrise des lois de la nature et par cela même parvenir à la maîtrise du monde. Mais en prétendant être soumis comme tout être vivant à des lois naturelles et nécessaires et fatales, l'homme se considère comme une pure matière, par conséquent, il s'enchaîne. Et c'est tout à fait paradoxal. Nous avons là les deux fondements, je dirais, du monde moderne et de la déconstruction, c'est-à-dire d'une part l'individualisme et d'autre part, la réduction de l'homme à l'état de chose. C'est une chosification. Et on comprend évidemment de ce fait-là, d'une part, les logiques totalitaires qui se caractérisent par la liquidation de l'homme, et d'autre part aussi le volontarisme débridé, c'est-à-dire l'idée que l'individu est une volonté totalement désincarnée de tout enracinement familial, social, politique, voire même déraciné de toute réalité biologique. Les paradoxes aujourd'hui sont constants. On exalte la nature quand il s'agit des écosystèmes. Par contre, quand vous parlez d'une nature humaine et d'une loi naturelle attachée à la nature de l'homme, là, ça ne va plus. On parle de l'exaltation de l'individu, mais nous sommes dans un système extrêmement étatisé, etc. Les paradoxes sont multiples. Ils sont multiples, mais pour autant, il y a bien une cohérence parce que tout s'enchaîne. Je ferai une petite analogie. Vous savez, on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui, dans sa maison, veut déplacer un meuble. Prendre un meuble dans une pièce pour le placer dans une autre pièce. Eh bien, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs chemins possibles. Peut-être que je vais passer à gauche de cette table ou à droite et que je vais prendre tel escalier ou au contraire prendre un autre moyen, enfin, je ne sais pas. Il y a de multiples possibilités. Et simplement, si plusieurs proposent des chemins variés, tous s'accordent sur le but. C'est-à-dire qu'il faut déplacer le meuble. Alors, on peut considérer que ce qui caractérise les idéologies modernes, c'est qu'elles s'accordent sur cette volonté d'émancipation de l'homme à l'égard d'un Dieu créateur et maître et à l'égard d'un ordre naturel entendu dans le sens classique. Et simplement, les moyens divergent. Aujourd'hui, c'est ce que l'on voit. Et c'est ce que l'on voit depuis deux siècles. Les idéologies peuvent s'opposer. Le libéralisme s'oppose au socialisme. On a vu pendant la Seconde Guerre mondiale s'opposer toutes les idéologies issues du monde moderne, mais pour autant, elles sont toutes, en réalité, dans le même camp par rapport à cette idée d'un ordre naturel des choses fondé sur un créateur. Voilà cette idée de logique de la déconstruction.
Il est intéressant, au sujet des mots, et vous insistez beaucoup là-dessus, parce que j'imagine qu'en tant que professeur, vous voyez arriver peut-être des étudiants qui étiquettent sans nuancer, qui n'ont peut-être pas une connaissance profonde de tout ce que les concepts revêtent, contiennent. Et les idéologies entrent, si je puis dire, comme dans du beurre, dans des pensées qui ne sont pas structurées par les mots. Donc là, vous venez de le dire, il y a des choses qui frottent. Mais en fait, pour avoir les nuances, il faut avoir la connaissance. Comment travailler là-dessus? Comment lever les malentendus? Vous, en tant que professeur, vous le faites. Et puis là, vous nous offrez cet outil. Et nous-mêmes, donnez-nous des clés.
Alors, le combat sémantique est le premier des combats politiques. Orwell l'avait rappelé dans 1984 avec beaucoup de pertinence. Je prendrai un exemple très simple. Nous avons l'habitude, même parmi nous, si vous voulez, je ne parle pas de gens qui sont marqués par une idéologie déconstructiviste, justement, mais nous prenons l'habitude de parler de questions sociétales. Or, le mot sociétal n'est pas innocent du tout. Il s'agit de déplacer des questions qui sont en réalité anthropologiques, qui touchent à l'homme, à sa nature, à la morale naturelle, de les déplacer vers le champ de la société, c'est-à-dire par conséquent vers ce qui est artificiel, vers ce qui est créé, vers ce qui est relatif. Donc, qualifier de questions sociétales des sujets comme l'euthanasie, l'avortement, le mariage, c'est déjà gagner le combat sémantique. C'est-à-dire qu'on se place déjà sur un terrain qui n'est pas le véritable terrain de ces questions, puisque ces questions relèvent de l'anthropologie. Pour moi, cet emploi de plus en plus fréquent et dilué du qualificatif de sociétal est tout à fait exemplaire de l'enjeu du combat sémantique. Bon, on peut prendre un autre exemple, plus politique peut-être, plus idéologique, le mot fascisme. Le mot fascisme, aujourd'hui, est un terme qui est employé essentiellement par la gauche pour désigner ceux qui seraient anti-marxistes, ceux qui sont anti-marxistes, pas spécialement libéraux, ainsi ont été qualifiés de fascistes, toute une série de régimes, de courants politiques qui, objectivement, ne l'étaient pas. Or, quand on regarde les choses avec attention, quand on étudie l'histoire et les idées, on constate que le fascisme est issu du socialisme et du jacobinisme. Par conséquent, se voir qualifié de fasciste quand on défend la monarchie, par exemple, et puis la monarchie classique, fondée sur des principes qui sont ceux de la pensée traditionnelle, si on veut, en parlant très, très, très schématiquement, bien, évidemment, on n'a rien à voir avec toutes les conceptions issues du socialisme, issues du jacobinisme. Le national-socialisme était lui-même une idéologie révolutionnaire. Voyez, donc, nous avons un langage, ou du moins une utilisation politicienne du langage politique qui ne correspond pas au sens réel des termes. Donc il faut apprendre à redonner leur véritable sens aux mots. Et c'est d'autant plus important que le risque que l'on peut voir subvenir aussi, c'est que certains estiment positif des courants ou des idées non connues ou pas bien connues parce qu'elles sont critiquées par les partisans du wokisme. Ce n'est pas parce que les partisans du wokisme critiquent tel courant que pour autant ce courant est bon. Encore une fois, on ne justifie pas la qualité d'une doctrine par ce qu'elle critique, mais parce qu'elle défend, par ce qu'elle propose, par son contenu. Et cela demande évidemment d'adapter les termes à un contenu véritable.
Mais qu'est-ce que vous préconisez, Joël Hauteberg, pour lutter contre cela? Je ne sais pas, c'est toute une éducation en fait que vous évoquez. Une éducation, ne pas employer des mots que l'on ne saisit pas, apporter des nuances, se former quand on a des manques, arrêter d'être pavlovien. Bref, tout ça on est d'accord, mais comment?
Eh bien cela passe par une formation, ça c'est je crois tout à fait élémentaire. Une formation qui s'appuie sur la philosophie réaliste, qui requiert une méthode d'analyse des événements, des doctrines. C'est pourquoi d'ailleurs il y aura dans les mois à venir également un ouvrage sur la méthode politique, sur la prudence politique. La politique n'est pas une technique. Il faut apprendre à raisonner. Voilà, il y a une méthode de raisonnement. Alors, il y a cela, et puis il y a aussi, bien sûr, la connaissance, tout de même, au moins élémentaire, de la plupart des doctrines politiques que nous connaissons aujourd'hui. La formation est indispensable, mais comme vous l'avez dit, vous avez commencé par là tout à l'heure, Valérie, on se forme pour agir, mais on ne peut pas agir bien quand on n'a pas la formation adéquate. Il y a toujours une relation, d'ailleurs je commence par là dans mon livre, ce rapport entre la pensée et l'action. Au commencement était le verbe. Au commencement était le verbe, le logos. Mm. Bon. Donc, on commence toujours par là. Hein. Et d'ailleurs, c'est tout de même une chose que je pense qu'on peut observer souvent, c'est que les gens agissent finalement comme ils pensent. Et quand ils pensent, quand les connaissances sont vagues, quand les principes sont diffus, eh bien, l'action elle-même va manquer de cohérence. C'est logique. Voilà. Alors, il ne faut pas, en revanche, tomber dans, évidemment, un désir de formation qui est purement intellectuel, si vous voulez, qui n'aboutit sur rien. Il faut toujours réfléchir à cet équilibre. Il faut bien penser pour bien agir. Mais bien penser ne suffit pas pour que les bonnes idées soient appliquées. Je dis souvent que les vérités qui sont dans un livre, Si le livre est fermé et dans une bibliothèque, et lu par personne, il ne sert à rien. Les idées qui sont dans l'ouvrage n'auront absolument aucune influence.
Alors tous les deux, nous pouvons rendre hommage à cette bonne maison que nous chérissons, qui est Ictus, Ictus rue des Renaudes. On peut renvoyer aussi nos auditeurs, parents, éducateurs, jeunes auditeurs qui nous écoutent, à toutes les formations que propose Ictus, ictus.fr, vous pouvez retrouver sur le site. Il y a un urgent besoin de se former aujourd'hui. Et merci à l'Homme Nouveau, on voit bien là aussi tout l'héritage, de nous donner ces outils-là et de vous conduire, vous, Joël Autebert, et vous le faites en tant que directeur de collection, à nous donner des outils qui sont condensés. C'est un gros travail. Comment procédez-vous avec vous-même et avec vos auteurs pour que chose soit condensée?
C'est un travail qui est exigeant. Je pourrais demander à Jean-Marie Vernier et Cyril Douneau, qui ont écrit aussi. C'est exigeant, mais c'est nécessaire. Bah, effectivement, c'est l'objectif de la collection, c'est de proposer des ouvrages peu chronophages, il y a quoi, 70 pages à peu près, mais cependant denses. Densité, ce sont des ouvrages écrits, a priori, enfin, je parle pour Jean-Marie Vernier et pour Cyril Douneau, par des spécialistes de ces questions, qui ont cette capacité à pouvoir synthétiser leurs propos de façon à ce que un ouvrage de ce type puisse être lu en quelques heures, hein, rapidement. Alors, lorsque ce projet de collection m'est venu à l'esprit, Philippe Maxence a eu la très bonne idée, et puis d'acquiescer, de soutenir le projet dans le cadre des éditions Raddecima, idée qu'il avait lui-même en réalité. Je pense que ça correspond bien à un besoin de proposer des ouvrages qui ne sont pas des gros traités. C'est pour ça que, a priori, enfin, en général, les thèmes choisis seront toujours des thèmes assez précis, de façon à ce que, bah, si on veut évidemment acquérir une formation plus poussée, bah, et au bout d'un certain nombre de mois, nous aurons publié des ouvrages qui, je dirais, s'ajoutent les uns aux autres et pourront être lus les uns après les autres, quoique les auteurs soient tous différents et que chacun, évidemment, écrit avec sa manière propre d'envisager la question, mais il y a, et nous y sommes attentifs, une véritable homogénéité intellectuelle.
Et vous avez souhaité donner à cette collection le nom de Critères, Critères au pluriel. Pourquoi Critères? Quels sont-ils? Comment les travailler? Comment les trouver?
Alors, critère est un terme qui renvoie au discernement, les critères du discernement. Alors, il y a d'autres termes qui auraient pu être employés, comme principes, fondamentaux. Il y a pas mal de mots qui sont ainsi d'ailleurs présents dans un bon nombre de collections plus universitaires. Je pense à la collection droit fondamental pour les juristes, bien sûr. Mais le mot critère renvoie au discernement. Et l'idée, c'est évidemment de proposer des ouvrages qui aide au discernement, discernement intellectuel, mais un discernement qui est destiné, là encore, à être efficace dans les actions envisagées. Hein. Voilà, c'est-à-dire que le fait de dire que la vérité existe ne signifie pas qu'on la possède. Une citation du pape Benoît XVI, que je reprends d'ailleurs, ce qui compte, c'est d'être possédé par la vérité. Voilà. Or, le domaine politique est un domaine qui est rendu nécessaire par l'ordre naturel lui-même. Et il y a un point qui est très important, qui va ressortir d'ailleurs de la plupart de nos ouvrages, c'est que quand on défend l'idée d'un ordre naturel, ce n'est pas du fixisme politique. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a nécessairement des déterminations qui sont indispensables et rendues indispensables par la loi naturelle elle-même. Il faut déterminer les choses dans le concret. Il peut y avoir parfois des évolutions historiques liées au contexte, à toute une série de choses. Et donc, c'est donc un vrai travail de raisonnement. Voilà. Le politique est œuvre de raison, il est œuvre de la nature, il découle de la nature, mais il est aussi œuvre de raison. Donc la raison, par définition, elle a besoin de critères. Et ces critères sont fondés sur quoi? Bah, principalement sur la philosophie réaliste, bien sûr, et puis tout l'héritage de l'expérience de siècles d'histoire.
Vous, à part ce retour au réel, je pense que vous touchez ce qu'intuitivement beaucoup d'éducateurs sentent comme nécessaire dans leur travail à l'égard de leurs enfants ou de leurs élèves, c'est de revenir à ce qui est, non pas au virtuel, hein, revenir au réel, s'y frotter. Et j'aime la manière dont vous le présentez dans votre livre, vous dites « montrer la chose comme on le fait lorsqu'on a deux langues différentes, entre étrangers, on se montre la chose ». Eh bien, je trouve que c'est plein de sens, là. Vous mettez en mots ce qu'intuitivement on peut ressentir.
Oui, alors, il faut partir du réel. Ça, ça paraît simpliste comme réflexion, mais c'est à la vérité premier. Simplement,
eh oui.
Il faut aussi être justement capable de discerner convenablement et pour cela, d'avoir aussi cette architecture intellectuelle. Je vous donne une illustration que beaucoup peuvent, je pense, comprendre. On remarque souvent qu'il y a des réactions saines face à des désordres. Par exemple, la question de l'écologie. Bon, qu'il y ait une réaction contre les méfaits de la société industrielle, la société du déchet, c'est très bien. On ne peut que s'en féliciter. Maintenant, quelle réponse donner? C'est là où on constate qu'on peut avoir un constat juste sur quelque chose, et là on est dans le réel si vous voulez, mais après vous avez hélas toujours des mécanismes idéologiques qui vont se mettre en œuvre pour proposer à nouveau quelque chose qui va aller toujours dans le sens de la déconstruction justement. Et donc il faut à partir d'un constat être capable de proposer quelque chose, c'est-à-dire des mesures politiques, sociales et autres, qui soient ordonnées. Voilà. Cette notion d'ordre est également très importante. Le réel est ordonné. Bon. Mais il faut être capable, à partir juste du concret, de montrer l'ordre qu'il y a dans ce réel. Et c'est là où il y a évidemment tout un travail de raison. Et c'est en ce sens aussi que l'idée de critère, évidemment, revient immédiatement à l'esprit.
Tout à l'heure, vous avez employé l'expression « bien commun ». Et je suis très heureuse que vous soyez à notre micro, Joël Hauteberre, parce que dans une précédente émission avec un autre invité, on l'avait un peu abordé, on s'était dit il faudrait vraiment un jour pouvoir le définir correctement. Je pense que vous êtes la bonne personne pour nous aider. Le bien commun, il se trouve que je l'ai employé récemment dans un autre contexte et on m'a dit « Ah, vous dites bien commun, on voit tout de suite qui vous êtes ». Alors j'aimerais bien aussi que vous évoquiez cela, aider nos auditeurs à comprendre ce qu'est le bien commun, comment l'instaurer, comment l'entretenir.
Alors il est vrai que pour des personnes qui ont un certain bagage intellectuel, la notion de bien commun renvoie à la pensée aristotélicienne, au thomisme de manière générale, à la pensée catholique, mais pas uniquement. Cependant, l'expression est employée par des personnes qui ne se rattachent pas nécessairement à ces courants philosophiques, parce que le terme peut être employé dans le sens d'intérêt général, de bien public, alors que pour autant, l'expression bien commun n'a pas le même sens. Alors tout d'abord, le bien commun suppose un bien, qu'il existe un bien, voilà, un bien, et non pas une pluralité de biens dépendant de la volonté de chacun. Voilà, il y a un bien, et ce bien, il est commun. Alors, il est commun, mais c'est le bien aussi de la communauté. Voilà. C'est donc un bien qui existe à une certaine échelle, qui est celle de la communauté. Il se pose donc la question du rapport entre les individus, les citoyens ou les sujets, et le pouvoir politique ou la communauté. Parce que le pouvoir politique n'est pas la communauté. Le pouvoir politique est chargé du bien de la communauté. Et traditionnellement, depuis Aristote, on fait observer que l'individu est une partie du tout qu'est la communauté. C'est-à-dire que nous devons songer à l'intérêt du tout. Si le tout ne fonctionne pas bien, les parties en subissent les conséquences. Hein, voilà. Alors, simplement, il n'y a pas de contradiction, en réalité, entre le bien propre de chacun et le bien commun, dans la mesure où c'est en poursuivant le bien commun que nous servons notre bien propre. Ça, c'est une idée capitale. Alors, attention, quand je dis bien propre, ce n'est pas l'intérêt personnel. Autre chose, l'intérêt personnel, ça veut dire que je satisfais mes passions, je fais ce que j'ai envie de faire. Le bien propre, c'est le fait de dire, pour mon bien, qui suppose la pratique de la vertu, bien, j'ai des efforts à faire, et ces efforts, je les fais pour le bien de la communauté. C'est en ce sens que, évidemment, bien commun et bien propre ne sont pas en contradiction. Nous avons une dimension politique. Nous sommes par nature des êtres politiques. On a tendance à l'oublier ou à ne pas suffisamment peser les conséquences de cette réalité naturelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas envisager l'homme seul. On ne peut pas. L'homme seul n'existe pas. Déjà, on n'a pas décidé de venir au monde, on n'a pas décidé de venir au monde dans tel pays, mais nous bénéficions de tous les bienfaits que nous offre la communauté dans laquelle nous arrivons. C'est pourquoi nous avons une dette que nous ne pourrons jamais rembourser totalement, quels que soient les grands bienfaits que nous pourrons nous-mêmes apporter à la communauté, pour nous, la France. Bon, donc il y a évidemment ici un sens du commun qui est absolument indispensable, sans lequel il n'y a pas d'avenir pour une société. Mais il faut du commun, et le commun ne peut être fondé que sur quelque chose de bon, bien commun. Et ce bien commun, encore une fois, en le poursuivant, eh bien, nous agissons aussi conformément à notre nature, et puisque la nature est la fin d'une chose, eh bien, en agissant selon notre nature, nous agissons pour notre bien. Je ne sais pas si j'ai...
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
En tout cas, il y aura un ouvrage bientôt sur le bien commun.
Sur le bien commun. Mais on va vraiment suivre cette collection Critères chez Ora Decima sous l'égide de l'Homme Nouveau. Collection que vous dirigez, Joël Hautebert. Je vous remercie beaucoup de venir nous présenter cet opus que vous avez vous-même rédigé. Cohérence de la déconstruction. Chers amis, même si vous n'êtes pas habitués aux idées politiques, à cette manière de raisonner, vous entrerez très facilement à votre rythme dans cet ouvrage qui est, comme je le disais, un condensé. Et donc, nous allons suivre toute la collection et faisons-en des outils de formation. Un auditeur nous dit... Autrefois, une famille vivait au même endroit, avec un même style de vie, une religion qui dictait la conduite morale. Ne pensez-vous pas que la déconstruction vient du déficit familial ?
Alors, la déconstruction des familles fait partie de ce projet émancipateur général qui a entraîné aussi bien l'effondrement des familles que l'effondrement des sociétés, que l'effondrement de l'individu lui-même dans toute son épaisseur d'être physique, doué de raison et également doué d'une âme. Le phénomène de déconstruction englobe tout. Alors, il est évident que l'équilibre des familles reste un rempart indispensable pour préserver l'équilibre humain. Aujourd'hui, on voit très bien que plus les familles sont détruites, plus les individus sont susceptibles de se soumettre aux diktats du wokisme, de l'idéologie du genre et de l'ensemble des idéologies délétères que nous connaissons. Hannah Arendt l'a très bien montré d'ailleurs dans son étude du phénomène totalitaire, où elle dit que les régimes totalitaires ont toujours cherché à détruire la famille. Pourquoi ? Parce que la famille constitue par définition un cadre qui échappe au contrôle de l'État. C'est comme un filtre. C'est un filtre entre la propagande d'État et les individus. Voilà. Alors, c'est vrai pour la propagande d'État, et c'est vrai même dans un bon régime, si vous voulez. C'est un filtre. Ça veut dire qu'il y a une identité propre, une identité familiale propre, et plus elle est maintenue, plus il y a une culture familiale authentique et vivifiée, plus l'individu est porté par celle-ci, et par définition, il est moins sensible à l'enseignement, aux diktats idéologiques qui viennent d'ailleurs. C'est une évidence.
Et au matraquage médiatique, culturel que vous évoquez. Notre entretien va toucher à sa fin, Joël Hautebert. Je remercie beaucoup d'avoir posé les bases de toutes ces réflexions. Vous avez évoqué le bien commun qui sera développé, les corps intermédiaires en fait aussi. Hein, je trouve pas le bon mot, mais j'allais dire ce matelas, c'est pas très bon, mais entre toutes ces idéologies qui arrivent et la personne. Je voulais aussi signaler à nos auditeurs, puisque vous avez cité Hannah Arendt, au long de ce court opus, vous donnez énormément de pistes de réflexion pour aller plus loin. Ça commence avec Marcel Gaucher, l'avènement de la démocratie, on voit Alexis de Tocqueville, Pierre Manon, vous donnez toutes les références. Celui qui est curieux, celui qui a conscience de ses manques et qui veut les combler, elle trouvera avec cet outil et les pistes qu'il donne de quoi se former et de quoi résister. Un dernier petit mot, Joël Hautebert, pour conclure, si vous le souhaitez.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Valérie, de votre invitation dans votre émission. Et je, comme vous l'avez dit, je ne peux qu'inciter les auditeurs à faire l'acquisition de nos ouvrages et de suivre la collection, puisque dès le mois de juin, il y aura de nouveaux ouvrages, et puis d'ici le mois de décembre, il y en aura encore d'autres, je vous l'ai dit, entre 10 et 12, et bien évidemment, cette collection ne fait que débuter, et nous visons cet objectif de 10-12 ouvrages par an. Je précise aussi que, même si nous touchons aux politiques, nous abordons aussi d'autres questions connexes, comme la question de la beauté et de l'art. Au mois de juin, il y aura un ouvrage sur l'art.
Merci infiniment Joël Hautebert, merci à Radio Courtoisie qui nous donne cet espace pour aller en profondeur sur toutes ces questions qui sont tellement vitales autour de la transmission, et je remercie vraiment tous nos donateurs qui nous permettent d'être là, et soyez s'il vous plaît de plus en plus nombreux, tout ça ne se fait pas par la seule respiration. Chers amis, je vous donne rendez-vous dans 4 semaines avec grande joie. Au revoir.
Vous venez d'entendre le libre journal de la transmission dirigé par Valérie Daubigny, diffusé en direct lundi 28 avril 2025 de midi à 13h30 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.